Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition.
Bien, on continue, on est toujours en direct du salon Startup for Teens à l'école 42 pour cette série de podcasts en live, en direct live devant un public toujours plus nombreux. Nous sommes à l'école 42, EdTech France le podcast en coproduction avec Startup for Teens et cette deuxième table ronde, l'empowerment, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Les femmes représentent la moitié de l'humanité mais ne sont que 17% dans le numérique et ne représentent que 3% des leaders tech. Les filles ne doivent pas avoir peur d'embrasser ces métiers riches en débouchés et qui construisent notre futur. Encore faut-il les y aider. Ce n'est pas qu'une affaire de femmes, ou ce n'est pas que lié à un manque d'ambition. Les obstacles et les freins sont réels, le plafond de verre, l'autocensure, les stéréotypes de genre, etc. Comment les combattre? Comment les surmonter pour répondre à ces questions? En tout cas, les aborder. J'ai la chance d'avoir avec moi trois personnes formidables, très concernées par le sujet, à titre professionnel et personnel. D'abord, Jalé Bradea, c'est bien ça, Jalé?
Exactement, c'est bien ça.
Alors, Jalé, tu es directrice diversité et inclusion chez Vivendi avec toute une préoccupation autour de l'égalité des chances.
Absolument.
J'ai également avec moi François Bras, qui est Head of Startup Business Development Partnership chez Google, le G de GAFAM. C'est bien ça?
C'est moi.
C'est toi le G de GAFAM. Très bien. Et puis enfin, Valentine Delastéry, qui est membre fondatrice de Sista, également directrice d'investissement et associée d'un fonds impact qui s'appelle le fonds Fiblac. C'est bien ça?
Tout à fait.
Super. Donc voilà, on voit déjà dans les intitulés les questions qu'on va pouvoir poser. Mais d'abord, moi je voudrais mettre les pieds dans le plat. On a une table ronde qui s'appelle l'empowerment. C'est peut-être un mot que ceux qui nous écoutent n'ont même jamais entendu. Alors qu'est-ce que c'est que l'empowerment? Jalé, peut-être?
Alors oui, je vais essayer de dire une définition d'après ce que j'en pense moi. Dans empowerment, il y a power. En anglais, ça veut dire donner du pouvoir, ouais. Laisser du pouvoir. Alors donner, laisser, déjà, c'est pas la même chose.
Ouais.
Et ma compréhension serait, dans le contexte de cette table ronde, permettre à celles et ceux, pourquoi pas, parce qu'on parle des filles, mais il y a aussi des garçons qui sont concernés par d'autres questions, le pouvoir qu'elles méritent, dont elles ont envie, vers lequel peut-être elles n'osent pas suffisamment aller et les encourager à y aller. Donc voilà, je m'en arrêterai là. Je pense que c'est ma définition à moi en tout cas.
Est-ce que nos invités partagent cette définition?
Oui, on va peut-être d'ailleurs traduire ce mot en français,
ouais.
Venant d'une boîte américaine. Pour moi, c'est plutôt créer les conditions de succès, c'est de donner en fait... des opportunités à des personnes pour réussir l'empowerment.
Ouais. Et si on devait le traduire par ça, c'est l'avantage de l'anglais, c'est qu'avec un mot, on a plein de concepts, ouais, mais en français, c'est quoi le mot qu'on pourrait trouver?
Il est traduit, c'est le mot empouvoirment.
L'empouvoirment, j'ai entendu. Ah ouais. Ça, c'est une traduction de québécois ou ça existe
non,
en français?
Non, c'est le mot qui circule sur les réseaux sociaux, dans les sphères féministes et alliées, empouvoirment.
L'empouvoirement, mais c'est un mot qui doit circuler partout, pas simplement dans les sphères féministes.
Non, mais
c'est l'objet de ce podcast.
C'est eux qui sont allés jusqu'à réfléchir à une traduction en français.
Alors justement, Sista, S-I-S-T-A, est-ce que tu peux nous rappeler la baseline qu'il y a sur le site internet?
Alors, oui, mais alors, avant même de parler de Sista, parce que le lien avec le mot empowerment est important.
Ouais.
Alors je partage tout à fait les définitions de mes deux camarades. Moi, je voudrais juste simplement rappeler qu'en France, on commence seulement à parler d'empowerment, alors qu'on en parle depuis très très longtemps, notamment dans les pays anglo-saxons, et qu'aujourd'hui, c'est une notion sur laquelle on est en train de revenir. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de tendance, quand on parle des questions d'empowerment, à focaliser sur la responsabilité individuelle des femmes.
Mmh.
Et donc, de participer à diffuser cette petite musique qui me pique un peu les oreilles parfois, qui consisterait à dire aidons les femmes à avoir plus d'ambition, aidons les femmes à arrêter de s'auto-censurer.
C'est de leur faute, quoi, c'est ça un peu.
Exactement. Ouais. Or, les études américaines sur le sujet démontrent désormais que plus on parle d'empowerment et on finance des programmes d'empowerment dans les entreprises américaines, plus les salariés, hommes et femmes confondus, sont convaincus que les inégalités sont la responsabilité des femmes,
d'accord,
à la fois dans la cause et à la fois dans la solution. Donc, il faut ne pas perdre de vue que c'est un sujet qui est systémique, qui doit engager la totalité des organisations, qu'il n'y a aucune raison qu'il incombe particulièrement aux femmes plus qu'au, encore une fois, au système dans lequel elles s'inscrivent, ouais, de réduire les inégalités dont elles sont victimes. Et c'est, je fais le lien avec Sista, c'est tout le travail de Sista. Donc Sista est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs dont l'objectif est de créer une génération de leaders dans la tech plus divers.
Oui.
Donc à la fois plus de femmes, à la fois aussi plus de minorités non blanches. La raison pour laquelle Sista s'appelle Sista.
Oui.
Et l'idée, c'est de dire, donc ce collectif, je l'ai cofondé avec Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, Tatiana Jamin, oui, fondatrice de Levia, qui sont deux entrepreneuses extraordinaires, mais également avec Mercedes Serra, Stéphane Palaise, président de la Française des Jeux, etc. L'objectif est de dire, attention, encore une fois, on parle beaucoup de ce que les femmes peuvent faire individuellement, mais parlons aussi du système qui les accueille, en l'occurrence les investisseurs, oui, puisque ce sont eux qui financent, oui, en grande partie le secteur de la tech. Quels sont les biais auxquelles les femmes font face de la part des investisseurs qui limitent l'investissement des investisseurs hommes et femmes d'ailleurs dans les femmes. Donc nous on a décidé de travailler sur le système et donc sur les biais inconscients. Et ça c'était tout à fait novateur parce qu'en France c'est quelque chose qu'on fait très peu, mmh, alors que c'est très diffusé encore une fois dans les pays anglo-saxons.
Et je disais sur le site internet, les femmes sont le plus grand réservoir de talents inexploités,
oui,
au monde.
Mais c'est vrai. Ouais. Les inégalités entre les femmes et les hommes coûtent 12 trillions de dollars annuels, ouais, à l'économie mondiale.
Ouais. Et alors comment est-ce qu'on y répond concrètement chez Sista? Ça veut dire quoi?
Alors concrètement, de toute façon, il n'y a pas une intervention, il n'y a pas un levier, il y en a 150. C'est un problème d'une très grande complexité. Ouais. Chacun prend sa part, ça je le crois très sincèrement, et avec beaucoup de sincérité. Nous, vraiment, l'angle qu'on a choisi, c'est les biais inconscients. Sur le sujet de l'investissement, par exemple, qui n'est qu'un exemple, parce que empowerment, c'est global, mais on va parler de ça. Sur le sujet de le funding gap, donc les femmes représentent, les startups dirigées, co-dirigées par les femmes représentent moins de 5% de l'argent mondial.
Moins de 5%.
Ouais, du venture, ouais, capital. Donc des
50% de l'humanité, moins de 5%.
C'est ça, de l'argent investi dans les startups. Donc, une fois qu'on a dit ça, pourquoi? Et quand on regarde, encore une fois, c'est merveilleux, mais ça a été mesuré. L'Université Columbia aux États-Unis a mesuré aux alentours de 40% de ces inégalités de financement sont dues au biais inconscient des investisseurs. D'accord. 60%, c'est du multifactoriel sur lequel on va travailler au long terme. L'éducation, le fait qu'elles aillent dans des secteurs moins gourmands en capital, qu'éventuellement elles soient plus conservatrices, ça c'est positif, donc elles demandent moins d'argent, mais aussi parfois, elles s'autorisent moins à en demander, etc. Donc ça, c'est multifactoriel, c'est un sujet éducatif. En revanche, 40% en stand-alone, 40%, ouais, ouais, elles ont face à elles des gens biaisés à leur égard.
Ça veut dire que très concrètement, je suis investisseur, inconsciemment, exactement, si j'ai une femme, je me dis, elle n'est pas faite pour ça, quoi.
Consciemment, je me dis aussi que je préfère une voix masculine. On pourra, ouais, en revenir si voilà, bon, je préfère une voix masculine à pitch égal, CV égal. Je, ouais, préfère un porteur de projet masculin. Je ne juge pas de la même manière un CV féminin. Quand un CV féminin est technique, technologique, ouais, elles sont diplômées, ouais, en tech, on va le questionner beaucoup plus. On va passer beaucoup plus de temps à leur poser des questions pour vérifier la légitimité, mmh, de ce parcours. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'opinion, ce n'est pas de l'empirique, c'était mesuré, ouais, c'est démontré. Donc, le physique de la femme ne joue pas de la même manière. Mmh. D'accord, on préfère un homme beau, par exemple, qu'une femme belle, etc. etc. Donc, ça, c'est 40% du, d'accord, funding gap aujourd'hui.
D'accord.
Donc, nous, avec Sista, on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là en premier lieu parce que c'est énorme et c'est la première cause seule des inégalités de financement.
Mmh. Et est-ce que ce n'est pas aussi parce que les investisseurs sont des hommes que...
Alors, beaucoup. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait... En fait, on va le dire autrement, c'est parce qu'il y a 92% à peu près dans le monde des investisseurs en venture capital décisionnaires sont des hommes.
Ouais.
Moins de 1% sont des femmes de couleur et des personnes, ouais, minorités non blanches. Alors, évidemment, ça crée une dynamique très masculine, très blanche. Ça, c'est un problème.
Ouais.
Après, aujourd'hui, une femme investisseur toute seule au milieu d'une salle pleine d'investisseurs masculins ne pourra pas renverser cette dynamique. Donc, c'est pas tant, c'est une question de nombre. Il faut 30% pour qu'une minorité puisse influer sur la dynamique d'un groupe. Donc, nous réclamons 30% de femmes partners, ouais, dans les fonds d'investissement français d'ici à 2025, 50% dans les équipes d'investissement, de manière justement à pouvoir renverser ça. Ouais.
C'est biais, c'est quelque chose que tu connais bien.
Oui, absolument. Je suis tout à fait en phase avec ce que Valentine vient de dire. On en a tous, en fait. On en a, même Valentine, dont on sent qu'elle a une très, très bonne connaissance du sujet et qu'elle est très investie. Moi, j'en fais un job aujourd'hui chez Vivendi. On en a toutes, ouais, et tous. Donc, c'est comme ça. Et c'est bien. Et c'est petit à petit que ça va changer aussi. Je suis tout à fait en phase avec le fait de dire, il faut qu'il y ait plus de représentation et qui a un pourcentage, effectivement, que moi je mettais de l'ordre de 40%, Valentine dit 30, je lui fais confiance sur les chiffres, pour inverser la tendance.
30 ou 35 selon les études.
D'accord, super.
Mais allons jusqu'à 40. Soyons fous.
Allons jusqu'à 50.
Exactement. Et effectivement, qu'on le veuille ou non, il y a ça, et quelque chose me faisait sourire quand on parlait de... On ne perçoit pas les hommes et les femmes de la même façon quand ils sont en train de pitcher un projet.
Ouais.
Effectivement, on va être un peu suspicieux face à un CV très rempli de tech. Et il n'y a pas que ce métier-là, il y a aussi d'autres métiers. Et c'est ça qui me faisait sourire. Oui. Dans nos métiers à nous, d'antenne par exemple, puisque Vivendi, c'est notamment les chaînes du groupe Canal+, je me fais souvent la remarque que les filles qui sont à l'antenne, elles sont très jolies, alors que les garçons qui sont à l'antenne ne le sont pas. Et qu'ils peuvent arriver à des âges beaucoup plus tardifs, alors que la femme, il y a une exigence envers elle qui n'a rien à voir. Ça aussi, c'est un biais inconscient et auquel on participe tous, parce que quand on fait du casting, même quand on le sait, eh bien, on continue de jouer ce jeu-là en disant « mais oui, c'est le téléspectateur qui le demande », alors qu'en fait, il ne demande pas.
Oui, les hommes comme les femmes sont sujets à ces biais.
Ça, j'en suis persuadée. Dans nos métiers à nous, j'en suis persuadée. Donc, ça parle aussi de la société dans laquelle on évolue. Et ça parle aussi, du coup, de l'importance aussi des médias. Moi, forcément, nous, on a un groupe de médias. Moi, j'essaye de travailler à ça. C'est que la représentation, il faut qu'on soit le reflet de la société, mais il faut qu'on aille aussi au-delà pour montrer des exemples de femmes qui réussissent dans la tech de façon tout à fait naturelle et que petit à petit, mais c'est encore une fois, ce sera un long, long travail, que petit à petit, on change ces biais inconscients, qu'on contribue à les changer. Ça ne suffira pas, bien sûr, que ce qu'on représente dans les pubs, les clips, les fictions, ça ne suffira pas, mais ça peut aider. Que les parents ne regardent pas leurs enfants de la même façon, qu'on ne porte pas, qu'on ne ferme pas des portes sans le vouloir, aussi bien aux filles qu'aux garçons d'ailleurs, parce que de la même façon, un garçon peut très bien choisir une carrière.
Bien sûr,
qui, aujourd'hui, on imagine plutôt féminine, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, ça.
Oui, il n'y a pas de carrière féminine et de carrière masculine, en réalité.
Non, et peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a des caractéristiques, mais peut-être que le fait de les avoir nommées féminines et masculines, ça porte vraiment à confusion, parce que qui dit... pourquoi est-ce qu'on dit combativité, on va vous dire ça c'est masculin. Écoute, on va vous dire ça c'est féminin. Or... on peut être un garçon et avoir une très forte écoute, une capacité d'écoute énorme, et on peut être une femme et être très combative. Donc il y a aussi, je ne veux pas apporter plus de confusion au sujet, mais je pense qu'il y a aussi, le vocabulaire compte également. On a commencé par parler de vocabulaire, ça aussi ça compte, parce que c'est le langage, c'est induit.
Premier véhicule.
Exactement.
Alors il y a un homme blanc parmi nous, François, ça va? Alors chez Google justement, qui est une entreprise... américaine. Valentine disait tout à l'heure que cette notion d'empowerment, c'est relativement nouveau en France, mais ça ne l'est pas outre-Atlantique. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans la culture de Google ?
Complètement. Je rejoins complètement ce que disait Valentine sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser une population, mais plutôt stigmatiser les conditions qui créent des opportunités pour ces populations. Et c'est le constat qu'on a fait chez Google. Et on travaille sur ces biais cognitifs. Donc il y a des formations... pour expliquer que ces biais font partie finalement de chacun et qu'il faut travailler dessus. On est aussi une société qui travaille beaucoup avec la donnée. Donc on a regardé, quand on poste une offre d'emploi et qu'on met des termes techniques, on a un panel qui est une représentation, une surreprésentation d'hommes par rapport aux femmes. Donc maintenant, on a une sorte d'algorithme qui nous oblige à repasser dans la moulinette toutes nos offres d'emploi pour s'assurer qu'il y ait une diversité dans le panel et que ce soit... Alors, l'idée, ce n'est pas qu'il y ait plus de femmes à des postes, c'est de dire, au moins dans le panel, on ne lance pas les entretiens tant qu'on n'a pas 50-50 hommes-femmes.
Okay.
Donc, ce qui crée des délais longs. On revoit à la moulinette, moulinette de diversité, toutes nos annonces et on s'assure que nos panels sont représentatifs hommes-femmes. Et ensuite, il y a un parcours qui se fait où on explique à la personne qui recrute qu'il y a des biais et que ces biais, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Ça me fait penser à une chose, je suis sûre que Valentine pourra apporter un commentaire, c'est sur la rédaction des annonces de recherche d'emploi. Elle allait le dire, donc je te laisserai compléter. Parce qu'effectivement, on a vu que dans la façon de rédiger les annonces, quand par exemple elles vont être pour un métier tech, on va le, inconsciemment, on rédige l'annonce en, en s'adressant à une population d'hommes et moins à une population de femmes. Donc, tout est à revoir, en fait. À tous les niveaux, tout est à revoir.
Valentine, parce que quand, quand François, tu expliquais ce qui se passe chez Google, Valentine, je le dis pour ceux qui nous écoutent, faisait génial.
Oui, non, parce que j'allais, et François vient de dire deux choses très importantes. J'allais à commencer en disant une évidence, tout le monde est biaisé, femmes et hommes.
Oui.
Moi, j'ai passé un test que j'engage tout le monde à passer. C'est le test Project Implicit de l'Université d'Harvard. Donc, vous tapez sur Google, pour ne pas les citer, Project Implicit.
Ou sur Quant, par exemple.
Évidemment. Mais là, on essaie d'être corporate. Mais, et vous pouvez tester vos biais inconscients sur les femmes, les personnes de couleur, les LGBTQ+, etc., etc. Moi, j'ai passé le test, il y a quelques années, sur les femmes. J'étais biaisée à l'égard des femmes.
D'accord.
Étant donné mon engagement sur le sujet, je pense que je ne dois pas être totalement être la seule. Ouais. Voilà. Donc, c'est très important. Déjà, première, d'avoir
conscience.
Ça t'a
surpris de te dire ?
Non, ça ne m'a pas surprise parce que je sais que, encore une fois, ce qu'a dit Jalé est fondamental. On est tous biaisés. On ne peut pas échapper au biais. Puisque le biais, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit d'un conditionnement social qui, de la naissance, vous entraîne le cerveau à percevoir les informations de manière parcellaire et partielle. Il y a aucune personne ne peut échapper à ça. Et le fait d'en avoir conscience ne résout pas le problème. Et c'est là que le propos de François est très important. La prise de conscience est une première étape nécessaire, mais ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir conscience quand il s'agit de lutter contre. Ouais. La seule manière de lutter contre, c'est de mettre en place des process by design, des process faire. Et quand Google passe ses annonces d'embauche, qui sont un sujet majeur, la rédaction des annonces d'embauche, parce que c'est des humains qui les écrivent, donc on les écrit avec nos biais à la moulinette d'un algorithme, et qu'ils se rendent donc compte que l'annonce est biaisée, qu'ils retravaillent sur le langage, ça, c'est l'exemple parfait d'une solution idéal pour régler ce problème-là. Voilà.
Est-ce que tu peux redonner simplement le nom du test ?
Project Implicit. Project Implicit.
Voilà, je vais le faire et je pense qu'on peut tous le faire. Effectivement.
Donc là,
prise de conscience.
Là, on vient de résumer le problème et une des solutions, le process.
Peut-être d'ailleurs, après le process, il y a, vu que le constat, c'est que tout le monde a des biais, c'est que dans tout ce qui est leadership décisionnaire, il faut cette diversité puisqu'on recrute des gens comme nous. Finalement.
Oui.
Et c'est vrai dans les startups, les fonds vont investir sur des gens comme eux, hommes, blancs. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce biais-là.
Est-ce que ça nous rassure aussi peut-être parce que
ça s'appelle le biais affinitaire.
Ouais,
ça fait partie dans les biais inconscients d'une catégorie très puissante de biais inconscients et le biais affinitaire. Vous rapprochez de ce que vous connaissez parce que c'est comme ça que votre cerveau est entraîné. Vous faites des rapprochements qui rassurent.
Ouais.
Oui, et c'est notre côté animal. On a probablement survécu à cause d'un certain nombre de choses de ce type-là et qu'aujourd'hui, on veut commencer à regarder différemment. Il me semble que j'avais vu donc, dans une de nos filiales chez Havas qu'ils systématisent, pas dans tous les pays, donc c'est un des pays anglo-saxons, je ne sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, de recevoir des candidats en binôme homme-femme pour tenter d'éviter qu'il y ait... une envie d'aller plus vers l'un que vers l'autre. Voilà, il y a des débuts de réponse de ce type-là qui rejoignent les process dont tu parlais.
François, peut-être vous voulez terminer ?
Oui, j'aimerais bien que tu nous dises ce que vous faites de plus, parce qu'une fois que vous avez l'annonce d'embauche, on sait aussi que l'entretien est un problème majeur, parce que d'abord, les femmes ne sont pas aussi performantes au sens pendant l'entretien que les hommes, au sens de ce qu'on attend d'elles. Hein, et on sait aussi que l'entretien est un des plus mauvais prédicteurs de la performance. Du salarié. Donc j'aimerais savoir vous ce que vous faites après.
Alors on a eu plusieurs phases en fait sur les entretiens. On a eu une période où on devait passer 14 entretiens. Donc vous aviez une diversité de...
14 entretiens pour un job.
Pour un job.
D'accord. Ouais.
On s'est quand même rendu compte que c'était peut-être un peu trop, mais qui permettait aussi d'avoir des regards différents sur la personne. Et donc ce sujet de diversité était traité. Aujourd'hui, ces 4 entretiens, mais on s'assure que dans le panel, donc c'est 4 personnes différentes qui vont recevoir la personne en entretien. C'est des personnes qui vont Une personne va travailler avec cette personne et les autres personnes, ce sont des personnes qui ne seront pas amenées à travailler avec cette personne. Et donc, elles vont tester des dimensions, elles vont tester sa connaissance du métier sur lequel elle est embauchée, ses capacités cognitives, et puis après, tout ce qui est lié plus à la personne, ce qu'on appelle la googliness, c'est sa capacité à travailler justement de façon horizontale avec toutes les équipes.
D'accord.
C'est là où on s'assure qu'il y a une représentation suffisamment large de toutes les populations chez nous.
La googliness. Ça, c'est un concept, c'est un truc qui existe.
Est-ce que tu m'autorises, Rémi, à poser une question à Valentine ?
Allez, comme ça me repose, moi.
Parce que cette histoire de performance en entretien, j'aimerais bien que tu approfondisses ce que tu veux dire.
C'est-à-dire que par rapport à l'exercice d'un entretien d'embauche, qui encore une fois est un très mauvais prédicteur de la performance finale de la personne recrutée, les femmes répondent moins à cet exercice. C'est un exercice qui est très calibré pour les hommes. Mmh. Un exemple, il y a une étude très intéressante chez HP, chez Hewlett-Packard, il y a quelques années, où ils ont démontré que pour qu'une femme candidate à une offre d'embauche, il faut qu'elle ait le sentiment de répondre à peu près 100% des critères de l'offre.
Oui, alors qu'un homme, c'est beaucoup moins, c'est ça? C'est combien? C'est 2%?
C'est aux alentours de la moitié.
La moitié, ouais.
Donc voilà. Donc
c'est, ça, c'est une forme d'autocensure, d'une certaine manière.
De perfectionnisme.
Oui, mais du côté des hommes, c'est une forme d'impudence aussi. Vous pourriez dire, les biais sont des deux côtés, c'est-à-dire de se dire, il faut que je matche 100% des critères et moi, oh, allez, la moitié de la moitié, ça va bien passer sur un malentendu.
Ouais.
Vous avez des biais des deux côtés.
Bien sûr.
Si on pouvait s'arrêter à 75% pour les deux, ça pourrait être intéressant.
Donc le fait, l'exercice sur l'entretien qui consiste à se survendre, qui consiste à séduire d'une manière assez agressive, finalement, n'est pas, et à répondre aux questions qu'on vous pose, mais pas seulement, être aussi capable de contourner, etc., n'est pas un exercice formaté pour les femmes conditionnées socialement telles qu'elles le sont. Voilà, dit comme ça.
Donc c'est comme ça qu'on pense que c'est le conditionnement social de toute une vie qui fait qu'une fois arrivé dans un entretien, tu n'es pas en performance dans l'exercice attendu.
En tout cas, moi, c'est mon interprétation de tout ce que j'ai lu sur toute la littérature. Il n'y a évidemment pas un gène de la réussite de l'entretien d'embauche chez la femme ou chez l'homme, c'est certain. Mais l'exercice, encore une fois, c'est un exercice qui est la porte ouverte à l'expression de tous les biais les plus brutaux.
Et c'est pour ça qu'il en faut peut-être pas 14, mais un seul, c'est peut-être insuffisant, précisément.
Oui, mais la question, est-ce que vous faites un entretien individuel ou est-ce que vous faites un entretien collectif? Est-ce que vous débriefez l'entretien du côté de l'employeur potentiel? Est-ce que vous débriefez en collectif ou est-ce que vous débriefez seul? Comment fait, l'entretien d'embauche, c'est vraiment un terrain miné pour le recrutement pour un recrutement plus diversifié. Les hommes blancs sont particulièrement sensibles aux biais affinitaires. Les études tentent à démontrer que les femmes le seraient moins. Plus ouverte à la différence.
On recrute parfois, j'imagine.
On est du non-profit, donc on recrute beaucoup de bonne volonté, oui, absolument.
Et alors quand on recrute même des bonnes volontés, et dans un entretien de recrutement, quand on a ça en tête, est-ce qu'on fait l'entretien différemment? Est-ce qu'on le mène différemment? Est-ce qu'on se dit, attention, je suis en train de poser des questions que je ne devrais pas poser parce que moi-même, je suis victime d'un certain nombre de biais?
Dans la charte Sista, puisque Sista a rédigé une charte, encore une fois, à destination des fonds d'investissement français pour les aider à contourner leur biais inconscient, il y a toute une partie sur le recrutement où on leur a proposé de prendre des engagements. Donc, ce que tu disais était très important. Une femme, un CV féminin face à 8 CV masculins, statistiquement, les chances d'être embauchées sont quasiment nulles.
D'accord.
Mais ça aussi, c'est de la statistique. Il faut qu'on compare ce qui est comparable. Donc, il faut qu'il y ait autant de CV féminins que de CV masculins pour que les CV féminins soient comparés de manière équitable. Donc, par exemple, on leur a demandé, typiquement, de prendre des engagements de ce type-là, d'assurer ce que fait Google. Un panel 50-50, c'est très important, y compris dans le final round, mais aussi de débriefer les entretiens de manière aussi objective que possible. Par exemple, on sait qu'en entretien d'embauche, on va beaucoup plus noter le caractère sympathique de la personne, le fait qu'on va aimer la personne. Sauf qu'en fait, on aime moins les hommes que les femmes. En fait, les hommes surperforment dans les évaluations d'affect par rapport aux femmes. D'accord. Donc, ne serait-ce que noter, vous, quand vous êtes une entreprise qui recrute, d'avoir une échelle en disant, de 0 à 10, combien vous avez aimé cette personne, c'est très facile ensuite de regarder qu'il y a un petit biais. Donc, des petites choses comme ça qui peuvent aider à prendre conscience à quel point cet exercice du recrutement est biaisé. Et on se fait évidemment accompagner par des cabinets qui nous aident, notamment Gloria et Qualiworks, qui nous aident justement à conseiller les fonds sur ces sujets-là.
Tu es né en Iran, c'est ça?
Oui, absolument.
On se disait avant que ces différences, elles sont ancrées presque culturellement entre l'homme et la femme. Alors, c'est pas qu'en Iran, bien entendu, mais...
Non, c'est pas qu'en Iran, mais c'est vrai, c'est intéressant. Je savais pas qu'on allait venir sur ce terrain-là. C'est vrai que moi, je pense que très, très petite, j'ai eu cette conscience de cette différence-là, en fait. Ayant deux grands frères, alors même que mes parents essayaient, et ça on en revient au biais et à tout l'inconscient collectif, ils essayaient de faire en sorte que moi, troisième et née fille, je ne sente pas de différence, mais la différence, elle était perceptible forcément.
Tu as eu des parents qui ont fait en sorte que toi, tu ne ressentes pas de différence, ce qui est déjà exceptionnel.
Exactement, ils essayaient de le faire, mais Et dans une certaine mesure, ils l'ont fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis née avec ce combat-là parce que ce n'est pas si simple que ça. Et qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux garçons, je n'ai pas de fille. Et encore une fois, très modestement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. J'essaye d'être très, très ouverte dans l'éducation pour mes enfants. Mais on a tous des billets. Et oui, bien sûr, je sais plus particulièrement de quoi on parle, puisque dans d'autres régions du monde, ne l'oublions pas, les choses se passent encore moins bien que dans nos régions à nous. Ouais, mais chez nous aussi, il faut jamais oublier qu'il faut continuer d'avancer parce que sur ces thématiques qui sont complexes et liées à l'humain, si on n'avance pas, moi j'estime qu'on recule. Donc d'où l'importance de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de s'interroger, comme on fait aujourd'hui.
Enfin, je pense que ce n'est pas uniquement limité à l'Iran. J'ai deux filles qui ont aujourd'hui 8 et 11 ans. Et je me souviens d'une discussion avec la petite il y a quelques années où justement je discutais de ce qu'elle voulait faire plus tard. En disant, tu peux faire un peu ce que tu veux, il faut que tu choisisses. Je lui dis, tu peux être président de la République. Elle dit, non, ça c'est un métier d'homme. 6 ans. Et je dis, mais pourquoi tu sais? Parce qu'il n'y a pas de président de la République femme. Et elle ne connaissait pas Merkel ou Theresa May à l'époque.
En tout cas, en France, il n'y a toujours pas eu.
Voilà. Et l'importance du rôle modèle, en fait, de dire, c'est possible. Et à un âge très jeune, on parle d'un enfant de 6 ans, extrêmement important de dire, regardez, en fait, c'est possible. Et après, de créer les conditions.
Valentine, notion de rôle modèle.
Avant même d'aller sur les rôles modèles, les enfants, à partir de l'âge de, je crois que c'est 5 ans, c'est 4 ou 5 ans, ont les stéréotypes de genre identiques à ceux des adultes en termes d'intensité. Dès l'âge de 6 ans, les petites filles pensent qu'elles sont moins brillantes que les petits garçons et qu'elles ont moins de chances de réussir professionnellement dans la vie. Ça aussi, ça a été.
Alors même qu'elles sont souvent meilleures élèves à l'école.
L'âge moyen de confiance en elle d'une femme à travers toute sa vie, c'est 9 ans.
9 ans.
9 ans. Voilà. Donc, selon, encore une fois, étude d'une chercheuse formidable à Columbia qui a travaillé là-dessus. Donc, la question de l'éducation, elle est effectivement centrale. Djalé a raison, n'oublions pas que dans certains pays, les femmes se battent même pour l'alphabétisation, l'accès aux soins, c'est évident. Mais je rejoins aussi, et ce n'est pas mutuellement exclusif ce que dit François, le combat, il est chez nous, déjà ici, bien sûr, tous les jours. La question de l'éducation, les jouets, les rôles modèles, c'est très important. Les rôles modèles, c'est un vecteur qu'on a mesuré. On sait que les rôles modèles ont un rôle direct. Il y a une chercheuse française qui s'appelle Clémentine Van Effer d'Harvard qui a travaillé sur les rôles modèles dans les sciences de la technologie. Et elle a montré que dans les lycées parisiens, elle a fait son étude dans les lycées parisiens. Si on montre des rôles modèles scientifiques aux femmes, les chances qu'elles envisagent de se lancer dans les métiers de la science et de la technologie sont plus importantes. Harvard a fait une étude où ils ont montré que les résultats des femmes étaient meilleurs à un test de maths quand la salle dans laquelle elles passaient le test avait au mur des portraits féminins et pas seulement des portraits masculins. Donc ça va jusque-là. Donc oui, le rôle modèle est un levier, évidemment, scientifiquement, parce que parlons de ce qui marche vraiment, moi c'est ça qui m'intéresse. Concrètement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut mesurer. Le rôle modèle, on sait que ça marche.
Alors, on a la chance de faire des podcasts en public. En plus, c'est un événement où il y a beaucoup de filles. Je vois une jeune fille, c'est pas prévu, je vais lui poser deux questions. D'abord, comment tu t'appelles?
Alia.
Tu as quel âge?
12 ans.
12 ans. Et est-ce que tu crois que c'est possible que tu deviennes, toi, présidente de la République?
Oui.
On a
Bravo.
Tout gagné. Voilà.
Elle manquait de conviction.
Alors, peut-être pas toi. T'as envie de faire quoi? Tu sais un peu, toi, ce que tu veux faire comme métier?
Soit architecte ou artiste.
Architecte ou architecte, c'est un métier d'homme, ça, en plus, non? Non? Hein? Je pose une question.
Alors, déjà, s'il n'y a pas de métier d'homme.
C'est de la provoque, vous l'avez compris. En tout cas, merci beaucoup.
Je vais continuer la provoque. Non, parce qu'il y a architecte d'intérieur.
J'allais le dire.
Donc, je voulais revenir sur cette histoire de rôle modèle. J'insiste un peu parce que, encore une fois, parce que moi, c'est mon quotidien dans ce qu'on voit aussi. C'est dans nos vies, dans ce que François disait avec ce qu'il fait avec. Il regarde ses filles, il essaye de les encourager. Et puis, nous tous, on est abreuvés d'images tout au long de la journée. Et ces images-là doivent aussi montrer tout le champ des possibles. Moi, j'aime bien souvent dire que Barack Obama n'aurait peut-être pas été élu président des États-Unis, donc le premier président noir, si quelques années auparavant, dans la série 24 heures chrono, qui était une série extrêmement suivie aux États-Unis, il n'y avait pas eu l'élection d'un président noir. C'est
il y a des études aussi très sérieuses qui montrent que ça a un impact sur l'électorat.
Oui, oui.
Donc ça, ça compte. Et donc nous, plus récemment, il y a eu une série de canal qui s'appelle Les Sauvages, où on a vu une personne d'origine arabe élue président français. Et ce que j'aime bien dire, c'est que j'aurais bien aimé que ce soit une femme. J'aurais adoré que ce soit une femme d'origine arabe qui soit nommée présidente. Et ça aurait un peu aidé ta fille, François, à bien s'imaginer que ça peut exister quand même.
On est en période préélectorale, là, parce que les élections municipales arrivent. Et notamment à Paris, puisqu'aujourd'hui on est à Paris, les trois favoris sont des favorites. Hein, et même une femme d'origine maghrébine. Donc est-ce que ce n'est pas des rôles modèles intéressants, ça, justement ? Est-ce que la politique n'a pas ce rôle-là ?
Alors, oui, bien sûr. Alors déjà, premièrement, sur ce que disait Jallet, il y a des études plus que sérieuses qui ont, enfin, et pas seulement des études, des métastudies, c'est-à-dire vraiment des études qui englobent de nombreuses autres études, donc qui créent un certain consensus dans la communauté scientifique, qui montrent l'impact direct des médias sur les ambitions des filles, sur le rapport à leur corps, sur le caractère agressif ou pas des garçons. Donc, on est capable maintenant de faire un lien direct entre ce qu'on met sur les écrans de nos enfants, et y compris les jouets qu'on leur met entre les mains, et les choix qu'ils vont faire en tant qu'adultes et la relation qu'ils auront aux autres genres. Ensuite, par exemple, on sait que plus des garçons ont joué avec des jouets stéréotypiquement masculins, donc très axés sur l'extérieur, l'agressivité, la guerre, la conquête,
les pistolets,
etc.
Voilà.
Plus ils vont viser des carrières professionnelles où ils gagneront beaucoup d'argent.
D'accord.
Par exemple, des jouets comme ça, des corrélations comme ça. Plus ils jouent avec des jouets neutres, plus ils seront ouverts à la question des inégalités et plus respectueux des femmes. Oui, vous avez voilà. Donc le rôle des médias, le rôle de l'industrie du jeu et du jouet, elle est mais fondamentale. Et ça, c'est démontré. On n'est pas dans, encore une fois, on n'est pas dans l'opinion. Après, sur la question de la politique, oui, seulement, je crois que c'est 5 à 7% seulement, selon le comptage qu'on fait, des femmes chefs d'État dans le monde. Donc d'avoir une femme maire de Paris, c'est super. D'avoir quasiment, je crois, 50% de femmes au Parlement français, 40-50%.
Oui, parce que quand on revoit
des images... Très important, mais maintenant, il faudrait qu'on les ait au gouvernement, il faudrait qu'on les... Voilà.
Quand on revoit des images de l'Assemblée nationale, il y a ne serait-ce que 30 ans... Il y a deux femmes.
Bien sûr.
Pas plus, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé entre 30 ans et aujourd'hui?
La loi est arrivée, bien sûr. Il y a une contrainte qui est législative, réglementaire. Ouais.
On observe le même phénomène sur YouTube, où là, on a aussi une responsabilité. On voit que la représentation des femmes sur YouTube, elle est limitée à des tutos maquillage. Et on essaie de pousser les femmes à faire d'autres choses, mais dès qu'elles font autre chose, en fait, il y a une violence des hommes sur des commentaires qui font qu'elles restent dans une sorte de carcan féminin qui est totalement absurde. On essaie de favoriser justement des femmes qui poussent de la tech, qui poussent de la science, qui poussent des choses. Ça reste très compliqué. Ouais. Parce qu'il y a un pushback, il y a une sorte de rejet.
C'est vrai
encore.
Qu'il y a les youtubeurs d'un côté qui sont les vedettes et les youtubeuses mode. Quoi. C'est un peu ça, si on caricature.
C'est un peu polarisé c'est pas normal.
Et Instagram n'est pas non plus net pas pour lutter contre les biais de genre. J'ai l'impression que la représentation de la femme sur Instagram, c'est aussi un peu ce biais-là. En tout cas, c'est le sentiment
que j'en ai. Et y compris sur les chaînes de télé. Ouais. Et on essaye de se battre pour faire en sorte, par exemple, que dans notre chaîne Tout Info, on ait des invités femmes pour d'autres choses que parler de maquillage, de bien-être. Ouais.
Un homme peut présenter la météo et une femme peut parler d'économie, quoi.
Exactement.
Ce qu'on voit, alors, c'est peu en réalité.
On pousse en fait. On revient encore au process, c'est-à-dire ça a changé au Parlement parce qu'un jour il a été décidé qu'il fallait que ça change et donc il y a eu. On s'est dit, on tente le 50-50 déjà dans le gouvernement. Le gouvernement a changé aussi. Hein. Je pense que celui d'aujourd'hui est quand même une représentation des femmes qui est importante. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement volontaire et qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place. Dans les process qui touchent des humains. Donc, ça veut dire qu'il faut leur dire... Et sur CNews, par exemple, la personne qui invite des personnes sur le plateau demande à ses journalistes d'appeler en priorité des femmes, d'abord, pour les inviter à l'émission de 16h, pour parler politique, pour parler géopolitique. Et seulement s'il n'y a pas de femmes, deux heures avant, il va bien falloir qu'on se rabatte sur les hommes. Mais ce qu'on me répond, moi, c'est que les femmes viennent moins facilement... comme ça, au pied levé, elles vont moins facilement venir se rendre disponibles.
D'accord.
Alors, moi, ce qu'on dit aussi aux équipes, c'est qu'on ne veut pas entendre ça.
Ouais.
Parce que, on continue et petit à petit, ça va changer et on va favoriser. Et donc, on a mis en place, par exemple, un annuaire d'expertes femmes
pour nos chaînes, ouais. pour qu'ils ne nous disent pas on n'en a pas, on ne les connaît pas,
ouais.
De ce qu'on appelle des bons clients télé.
Oui, oui, qui sont toujours un peu les mêmes. En plus, c'est
sont toujours un peu les mêmes.
Il y a une facilité à inviter ceux
Exactement,
qui viennent
Exactement, mais parce que... Donc, pour pouvoir, pour diversifier ces invitations, ouais. et la diversifier, ça rejoint aussi... des personnes perçues comme non blanches, c'est les femmes, c'est voilà, et que on soit pas toujours sur les mêmes têtes dans les mêmes émissions. D'ailleurs, qu'on voit tourner dans toutes les émissions, hein, donc
ouais.
donc c'est ça, c'est ouvrir ce champ-là pour donner à voir autre chose.
Donc des rôles modèles, on l'a compris, une contrainte, Valentine, la contrainte, on peut l'imaginer, parce que là, il y a une contrainte légale pour la parité en politique, etc. On peut l'imaginer, par exemple, imposer aux fonds d'investissement d'investir dans des entreprises uniquement composées en parité. Je ne sais pas, c'est des trucs possibles ou pas, ou souhaitables, ou fantasmagoriques.
Alors déjà, nous, l'objectif de la charte Sista, je vais faire très attention de ne pas répondre à votre question. Donc...
Et les politiciennes aussi.
Bah, je commence tout à fait ma carrière en politique, absolument. Donc, c'est un milieu que je connais assez bien. Nous, l'objectif de la charte Sista, c'est justement de fixer nous fixons un objectif à nos fonds signataires ouais. de 25% d'investissement dans les start-up dirigées, co-dirigées par les femmes d'ici à 2025. Ce qui est à peu près un fois deux par rapport ouais. à ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que, encore une fois, les études démontrent qu'en travaillant sur les biais inconscients des investisseurs, on peut faire x2 dans les montants levés. Donc, je pourrais développer, mais ce serait un peu long en expliquant ouais. comment on fait ce calcul, mais ça serait un x2. Donc déjà, x2, ça serait déjà très bien. Après, la question des quotas divise énormément. Elle est épidermique mmh. En France, même mmh. aux États-Unis d'ailleurs. Hein, je veux dire, les derniers jugements de la Cour suprême sur la question dans les admissions dans les collèges, dans les universités privées américaines, qui enclenche un grand débat national. Donc c'est un sujet qui est épidermique pour beaucoup de gens. Demander au secteur privé de forcer le secteur privé à investir, je ne pense pas qu'on en soit encore là, très
oui.
franchement.
Oui.
Est-ce que c'est souhaitable? Moi j'ai mon opinion, je ne pense pas qu'elle soit pertinente ici, mais en tout cas, je ne suis pas totalement persuadée que c'est ça qui va créer le meilleur climat. Et nous, en tout cas, chez Sista, on ne parle pas une seconde de quotas.
Oui.
On part du principe déjà qu'en aidant et donnant des outils, on doit pouvoir faire un x2 mmh. uniquement basé sur la bonne volonté des investisseurs, que je crois très sincère sur cette question.
Mmh. D'accord. François, tu as été aussi entrepreneur, je crois.
J'ai été entrepreneur, effectivement.
Ouais. Donc cet écosystème de start-up et tech, tu le connais aussi de
je
l'intérieur.
Connais bien, mais...
Est-ce que tu as vu des évolutions ces dernières années entre tes débuts d'entrepreneur et aujourd'hui que tu es chez Google ?
L'écosystème a énormément changé. Il y a énormément d'argent aujourd'hui dans le système. Beaucoup de fonds, beaucoup de levées avec des valos. Les valorisations peuvent être ouais. discutées et discutables. Mais pour rejoindre le point de Valentine, je pense que mettre des quotas aurait peu de sens. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a toute une partie d'un marché qui n'est pas adressé, les femmes.
Oui.
Donc si je prends les startups, c'est souvent effectivement des hommes financés par des hommes qui s'adressent à des hommes.
Oui.
Et en fait, il y a toute une population. La réalité économique, business, elle est intéressante de s'adresser aussi aux femmes. Et peut-être qu'en ayant plus de femmes en amont qui mmh. financent des femmes mmh. qui s'adressent aussi à une population femme, il y a énormément de valeur à créer.
Alors... Oui, mais je rejoins ce que dit François, mais attention à cet argument-là qui consisterait aussi à nous enfermer, nous, en experte maquillage et en experte oui. De boîte B2C, de produits ménagers. La diversité en tant que telle, quel que soit le secteur, est vecteur de rendement économique et de performance économique dans mmh. les grandes mmh. entreprises, mais dans les start-up. Mmh. Mmh. Les start-up dirigées ou co-dirigées par des femmes rapportent 2,5 fois plus aux investisseurs, étude BCG 2018,
oui.
que les start-up. Je parle de ROI, hein,
ouais.
les startups co-dirigées uniquement par des hommes. Ça rapporte 78 centimes sur un dollar quand la femme ouais. quand l'entreprise est dirigée ou co-dirigée par une femme, versus 31 centimes sur un dollar investi quand c'est uniquement une startup d'homme blanc.
Ça, c'est l'argument massue, quoi.
Mais c'est l'argument fondamental.
Ouais, ouais.
Au-delà de la connaissance du secteur, vous pouvez être femme et ne pas du tout vous intéresser aux questions de maquillage. Oui, enfin, je veux dire,
ouais, ouais.
Et surtout, les femmes investisseurs, je crois, souffriraient beaucoup d'être cantonnées à ce rôle-là.
Bien sûr,
ouais. En revanche, ce que tu dis est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un marché qui s'adresse aux femmes qui, du coup, n'est pas compris par les investisseurs hommes.
Ouais.
Ça, c'est vrai aussi. Tout à fait. Mais ce que je veux dire simplement, c'est attention à développer cet argument-là uniquement comme un argument principal, parce qu'il peut être aussi très enfermant pour les femmes qui ont un petit peu envie qu'on arrête simplement de l'identifier comme l'experte S tampon hygiénique bio, vous voyez, qui sont accessoirement d'ailleurs des boîtes qui marchent très bien, mais enfin qui en tout cas qui sont prometteuses, ce qu'on appelle les femtech, mais aussi la diversité en tant que telle, les femtech.
Les femtech.
Femtech. Female technologies.
D'accord. Et alors, moi, je dirige Tech France, qui est une association, EdTech, donc tech. Mais comme il y a un Ed devant avec éducation, ben, il y a pas mal de femmes entrepreneurs. Hein. Probablement plus que dans la fintech. Ça aussi, c'est un biais. C'est-à-dire que l'éducation, c'est plus souvent un univers féminin. Valentine, tu as envie de réagir là Oui. Alors, ça se sent. François, donne-lui le micro, c'est un conseil.
Non, c'est pas ça. C'est...
François et moi, on se partage un micro, il n'y a pas de souci.
Les femmes sont plus les études montrent que les femmes sont plus sensibles aux conséquences de leurs actes. C'est-à-dire que quand elles vont prendre une décision dans une entreprise, l'impact que ça va avoir sur la communauté est quelque chose qui les intéresse plus. Ouais. Donc, qu'elles vont dans l'éducation aussi, parce que la question de l'impact sociétal est un sujet qui les préoccupe plus que les hommes. Voilà. Et les fintechs, alors les fintechs, déjà, souvent, il faut avoir travaillé dans la finance pour lancer une... Alors, Céline Lazor, tu es un contre-exemple parfait, mais souvent, quand vous lancez une fintech, a priori, vous avez plutôt une expérience dans la finance, vous avez moins de femmes qui travaillent en finance que d'hommes. Ce qu'on appelle les MVP, les Minimum Viable Products, c'est-à-dire arriver devant un investisseur avec déjà un petit produit, ça coûte beaucoup d'argent, fintech. Aussi, donc, ça veut dire qu'il faut avoir aussi beaucoup d'économies, donc avoir gagné plus d'argent. Enfin, il y a plein de... Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a plein de faisceaux d'hypothèses qui pourraient expliquer... Voilà, il n'y a pas, encore une fois, un gène de la finance.
Ouais. Et puis, je pense pas qu'on arrive à une parité exacte dans tous les domaines. L'idée, c'est peut-être pas qu'il y ait justement 50-50 dans tous les domaines, mais qu'il y ait l'égalité de conditions d'accès. Pour que tout le monde, quel que soit d'ailleurs, que ce soit le sexe ou l'origine ethnique ou autre, mais que tout le monde ait un accès, pas facilité, mais en tout cas égalitaire, à ces industries. Et puis après, la répartition, elle se fera en fonction des affinités. Si des gens veulent plus dans l'éducation ou plus dans la fintech, c'est pas un sujet.
L'empowerment, ça n'est pas qu'une affaire de femmes. Je crois qu'on a... On comprend ce que ça veut dire maintenant. Hein. C'est l'affaire de tous, en réalité. Tu as eu aussi un passé qu'on n'a pas encore évoqué. Je suis désolé parce que je vais chercher des choses un peu intimes. Mais tu as animé une émission de télévision, c'est ça, il y a quelques années.
Oui, qui s'appelait Destin de femme. Ouais. Donc, effectivement.
Sur
TV5 ouais. Monde. L'idée, c'était de mettre en face l'une de l'autre des femmes d'origine différente qui chacune faisaient avancer les choses. Là où elle était. Ouais. Donc, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Simone Veil parce que c'était quand même il y a plusieurs années, par exemple. Claudie Aigneret, qui est une femme exceptionnelle, est un exemple pour nous toutes, pour nous tous.
Oui, c'est ça, c'est un exemple pour nous tous, en fait, pour nous toutes et tous. Quoi,
absolument,
pour tout le monde.
Absolument. L'idée, c'était de montrer que quand, peu importe ce que vous faites, mais quand vous le faites de façon positive et constructive, on est sûr que vous allez vous entendre avec quelqu'un d'autre, quand bien même cette personne est née à des milliers de kilomètres et n'a rien en commun avec vous. Parce que je crois fondamentalement à ça dans l'être humain. Le choix d'avoir eu que des femmes à ce moment-là, c'était suite à une discussion avec Frédéric Mitterrand, qui était patron des antennes de TV5 à l'époque. Et il voulait, lui, de façon volontariste, laisser une vraie place aux femmes sur sa chaîne. Femmes qui rayonnaient, chaîne qui rayonnait dans le monde. C'était la chaîne à l'époque, donc c'était en 2004-2005. C'était la chaîne française vue dans différents pays du monde. Donc c'était aussi ça. C'est aussi ça le rôle d'un pays qui est plutôt... Je vais pas dire... plutôt en avance quand même sur les sujets, ou en tout cas on se bat. Alors je sais, Valentine, on a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que par ailleurs, on peut aussi servir à d'autres pays pour montrer ce qui est possible, leur montrer que chez elles, chez eux, il y a aussi des femmes exceptionnelles qui changent les choses, mais aussi qu'on continue d'avancer et leur montrer les choses. Donc ils souhaitaient vraiment qu'il y ait une case dédiée aux femmes. Et ça, on revient toujours à cette histoire de process, à cette histoire de... Donc, sans quotas, moi, j'étais plutôt pas contre les quotas, je trouve, dans certains domaines, parce que je pense que pousser un peu les sujets un certain temps, le temps que ça devienne naturel, ça peut aussi être intéressant. Alors, ce serait le sujet d'un autre podcast,
j'en ai plein des sujets. Mais c'est l'idée qu'une contrainte, finalement, on va la vivre comme une contrainte d'abord, avant de comprendre que c'est une opportunité, en fait.
Exactement. Ouais. C'est comme ça que moi, je verrais les quotas pour dire, il faut peut-être en passer par là jusqu'à ce que ça devienne naturel, parce qu'on voit bien que c'est long,
ce côté devenir oui. naturel. Donc voilà, je pense que la discussion reste ouverte sur ce sujet-là, on n'en a pas fini.
François, est-ce que...
Non, complètement d'accord. Enfin, sur le besoin d'un moment imposer un quota, de dire bah, on montre cette valeur dans la diversité, puis après on laisse le sujet grandir tout seul. Mais ouais. qu'il y a un moment, une forme de contrainte, oui, me paraît important. Avec des effets de bord quand même qu'il faut mesurer, puisqu'il peut y avoir un rejet. On peut avoir aussi des gens qui disent bah, tu es là parce que tu es comme ça, et créer en fait un déséquilibre qui va dans le mauvais sens. Donc c'est très compliqué à mettre en place.
Ouais. Un équilibre subtil qui est véritablement l'affaire de tous, public, privé, parents, éducateurs, employeurs.
Mais encore une fois, le rôle modèle pour moi est clé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tirer, qui va montrer un peu le chemin, et après créer, pousser derrière en mettant les bonnes conditions. Est-ce que les bonnes conditions, c'est des quotas ? Attention aux effets de bord.
Et les femmes peuvent être un rôle modèle aussi pour des hommes, c'est-à-dire que c'est aussi ça. Valentine ?
Oui, puisqu'on va dans les quotas. Bon, alors
lâche-toi.
Non, mais je me lâche pas du nom, c'est pas une question de se lâcher. J'ai changé d'avis totalement, j'ai changé d'avis de nombreuses fois sur le sujet. J'ai vécu plusieurs années aux États-Unis, donc ça m'a également fait.
Donc il n'est pas impossible que lorsque ce podcast sera diffusé, tu aies changé d'avis, c'est
non,
ça que tu
essaies de dire ? Non, a priori, non, maintenant, non. En fait, maintenant, je me suis axée sur le fait que je suis philosophiquement contre et pragmatiquement pour, parce que je ne vois pas d'autres solutions.
D'accord.
Et que. Voilà. Et donc, dans certains domaines, évidemment.
Merci, Valentine, c'est très joliment dit. Ouais. Moi, je suis plutôt aussi philosophiquement contre, mais pragmatiquement pour. C'est exactement pas parce que je n'ai pas trouvé autre chose, en fait.
Et sur les effets de bord, je ne sais pas, parce que on parle souvent d'attention. Alors, moi, j'entends beaucoup, notamment sur le sujet des boards, la loi Copé-Zimmermann qui a ouvert les boards, qui a imposé 40% de femmes dans les boards. On nous dit,
Les boards, pour ceux qui nous écoutent.
Les boards d'entreprise, les boards qui dirigent les entreprises, donc les comités. Pour faire simple. Donc, on nous dit souvent, ah oui, mais attention, on s'est retrouvé avec un grand nombre de femmes assez incompétentes. Dans cette phrase. Moi, j'ai trouvé extraordinaire cette phrase, parce que le jour où la femme aura autant le droit à l'incompétence que l'homme, c'est ça l'égalité.
Exactement.
Et quand on vous dit, mais tu es là parce que tu es une femme, moi, très souvent, j'ai envie de dire au mec, mais toi, tu es là parce que tu es un homme, très clairement. C'est vrai aussi dans l'autre sens. Ouais. Donc, ce discours-là, je pense qu'on doit pouvoir quand même le contrer. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'être incompétente ?
Oui, non,
vous ne connaissez pas des hommes blancs incompétents, vous ? Moi, j'en connais un certain nombre et ça a l'air de gêner personne. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi j'ai pas le droit d'être nulle.
J'avais eu un dessin de Plantu qui m'avait fait marrer où on voyait justement un board qui se réunissait et puis il y avait le directeur qui disait il faut plus de femmes au board. Il y a quelqu'un qui se dit mais la femme de qui ?
Ah oui, je l'ai vu.
On va bientôt être obligé de clôturer cette émission, j'en suis désolé parce que c'est un sujet qui est passionnant et on continue cet après-midi, il y a encore des podcasts ici même et puis c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans d'autres éditions, mais je voudrais donner à chacun quand même un dernier temps de parole, voilà, peut-être pour aborder quelque chose qu'on n'a pas encore abordé ou pour une belle conclusion.
Peut-être pour insister moi sur le fait que de ce que j'ai entendu et que Valentine confirmait, c'est vers 5 ans que toutes ces choses se passent aussi. Donc on revient à l'importance de l'éducation, au rôle des parents, de l'école, des médias, d'internet, de tout ce qu'on peut voir, des jeux, des jouets. Parce que il faut prendre les choses par les deux bouts, en fait. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts en tant qu'adultes dans nos entreprises pour que les choses changent, mais c'est cet avenir-là qu'il faut aussi regarder. Et ouvrir la porte aux filles, absolument pour ce dont elles ont envie, mais de la même façon, ouvrir aussi la porte aux garçons, absolument pour tous ceux dont ils ont envie. Et pas genrer, pas dire, ah ben non... c'est quand même... Parfois, on dit, moi, j'ai des garçons et il se trouve que l'un d'eux était assez intéressé par des jouets dits faits pour des filles. Donc, moi, j'ai toujours laissé faire, mais dans la rue, les gens nous faisaient des remarques. Encore aujourd'hui, en disant, mais enfin, t'es pas une fille. Comme si c'était l'injure suprême de dire, mais t'es pas une fille. Et donc, et moi, je surréagissais à ça parce que ça me choquait que ça puisse être de cette façon-là. Donc voilà, je voudrais une ouverture d'esprit qui puisse s'instaurer petit à petit et dès le plus jeune âge, puisque les choses visiblement se décident assez tôt dans nos cerveaux.
S'il y a des jeunes parents qui nous écoutent ou des futurs jeunes parents, ne peignez pas la chambre en rose si vous allez avoir une fille et en bleu si vous allez avoir un garçon. Quoi. Ça commence
le garçon a le droit de faire des jeux créatifs, de coller des choses, de créer des bijoux s'il en a envie. C'est pas réservé aux filles. On est en train de parler de talent, de caractère, de ce qu'on a en nous et qu'on a envie de développer.
Et donc, moi, j'ai compris que les jeux de guerre, c'était intéressant aussi parce qu'on avait envie de gagner plus d'argent.
Donc, offrez des pistolets à tout le monde et surtout aux filles pour qu'elles gagnent plus d'argent. Voilà, je ne sais pas si c'est la morale de l'histoire, mais François, quelle est ta morale ?
La morale de l'histoire, bah, déjà, je pense que c'est plutôt optimiste. C'est qu'on va quand même dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de chemin, mais il y a des choses qui sont faites. Il y a des associations comme Sista qui prennent le sujet, qui font bouger les lignes. Je pense que la technologie aussi donne beaucoup d'informations et permet une mesure assez nouvelle de ces sujets-là. On le fait chez nous, on le fait de plus en plus sur la vidéo. Maintenant, grâce à la reconnaissance faciale, on peut voir la représentation homme-femme et casser ces biais. Et pour moi, c'était le point d'entrée, c'est le biais et le rôle modèle sont les deux leviers sur lesquels il faut vraiment travailler. Le biais, que chacun prenne conscience que on a tous un biais et qu'il faut... Il faut le prendre en compte et travailler dessus. Et puis, qu'il y ait de plus en plus de rôles modèles pour que ça crée des vocations. Alors, peut-être qu'Alia sera architecte ou président de la République, on ne sait pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut avoir les deux.
D'abord architecte,
mais en tout cas, créer ce phénomène d'aspiration, de dire c'est possible et les conditions sont réunies pour que ce soit réalisable.
Valentine ?
Alors, j'adore terminer avec un message d'optimisme. Oui, c'est vrai, ça progresse. Depuis 2006, les inégalités entre les hommes et les femmes, d'après le World Economic Forum, ont progressé de 2,6%. L'égalité a progressé de 2,6%. Et à rythme constant, l'égalité entre femmes et hommes, à la fois dans l'accès à l'éducation, la santé et l'égalité économique, c'est pour dans à peu près 110 ans, 108 ans très exactement, et 260 ans juste sur les aspects économiques si on continue au même rythme.
Ouais, mais il n'y aura plus de planète
donc,
d'ici
je
là.
Laisserai chacun, je laisserai chacun déterminer si le rythme est jugé satisfaisant ou pas.
C'est peut-être que quand l'humanité sera déplacée sur Mars,
il y aura
l'égalité.
Chacun sa vision du timing. Voilà, mais bien sûr, ça progresse, ça progressouille.
Ça progresse,
Maintenant, effectivement, je rejoins, j'allais sur la question de l'éducation, c'est fondamental. Oui, les petits garçons sont tout aussi victimes que les petites filles des stéréotypes de genre. Surtout qu'il est beaucoup plus acceptable aujourd'hui dans certains milieux qu'une petite fille s'identifie au genre dominant, c'est-à-dire le genre masculin, en voulant faire un travail de vue. Comme un travail de garçon, etc. En revanche, il est beaucoup moins bien vu qu'un petit garçon s'identifie au genre dominé, les femmes, en ayant envie d'avoir une poupée, etc. etc. Là-dessus, aussi rappeler éventuellement un petit message à quel point on est esclave du marketing. Le rose, jusqu'au milieu du XXe siècle, était une couleur de garçon, puisque c'était une déclinaison du rouge qui était la couleur du pouvoir. Le bleu était la couleur associée aux petites filles, puisque c'était la couleur de la Sainte Vierge.
D'accord.
Donc, quand on décide d'acheter du rose, prendre conscience simplement à quel point on est vraiment des esclaves idiots d'un marketing dont les historiens pensent, puisqu'il y en a certains qui ont travaillé sur la question, que c'est Caroline de Monaco, donc la Grace Kelly, qui a habillé Caroline de Monaco en rose, justement un peu par provoque, qui a retourné complètement le système. Donc, on est vraiment, mais vraiment les esclaves du marketing, ça n'a aucun sens. Voilà. Et c'est absolument étonnant. Il se trouve que j'ai un petit garçon qui parfois j'habille en rose, voilà, parce que je m'en fous, je fais pas attention. Et dans une toute petite crèche dans laquelle il va, une des mamans qui me connaît pourtant, qui me voit tous les jours, a vu mon fils à quatre pattes avec son petit pull rose. Elle ne l'a pas reconnu. Elle a demandé qui était ce nouveau bébé. Elle ça l'a choquée. Elle m'a regardée. Elle m'a dit mon Dieu. Elle l'a pas reconnu mon fils. Ouais. Parce que pour elle c'était juste impossible, garçon. Rose, impossible. Ouais, ouais. Là-dessus, effectivement, travailler là-dessus tous en se rendant compte à quel point, en fait, ça n'a aucun sens, c'est grotesque. Je pense que ça fait partie des.
C'est une belle conclusion. Génial. Ah, tu voulais ajouter quelque chose. Si je sens qu'il y a un.
Non, mais j'ai adoré, moi, écouter tout ce qui a été dit aujourd'hui, en fait. C'est ça que je voulais dire.
Tu n'as pas que écouté, tu as participé.
J'ai participé aussi. Mais je sais que maintenant, quand je ne saurai pas quoi faire de mes sujets, j'appellerai Valentine pour qu'elle me donne quelques études et chiffres à l'appui, parce qu'on en a besoin pour être convaincant et pour pouvoir avancer. Heureusement qu'il y a des études et des mesures qui vont dans le bon sens aussi.
Il faut sortir de l'idéologie. Je pense que sur ces sujets-là, de pouvoir un petit peu objectiver en disant, on a des données. C'est sortir parfois de débats extrêmement houleux, désagréables pour tout le monde. À un moment donné, les données ont un sens et je te remercie de le souligner.
Il faut simplement avoir le courage de les faire parler, quoi. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça a été. J'imagine que tous ceux qui vont nous écouter auront le même plaisir que toi, Jalais, tu as eu à écouter et à participer.
Et je voudrais qu'on applaudisse aussi Rémi, comme gentil. Ça a été fait précédemment, qui est un animateur extraordinaire.
Ça c'est vraiment gentil. Merci beaucoup François, Valentine, Jalais, tout le public qui était là. On a une future présidente de la République dans la salle.
Moi je voterai pour toi.
C'est un podcast qui va être historique. On continue, on est toujours sur le salon Startup for Teens en direct de l'école 42 et vous retrouverez ce podcast sur toutes vos plateformes. À très bientôt, merci.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast.